Chapitre 14. En tout cas, mademoiselle, j'espère que ta maîtresse d'école vous enseigne bien les paroles de Dieu.
Oui, bien, je pense, répondit Philomène en jetant un regard indécis vers son oncle curé.
La religion doit être vécue tous les jours, du lever au coucher. Ce n'est pas seulement l'objet de quelques leçons par-ci, par-là à l'école, rappela Jacqueline en posant ses mains sur son gros ventre. Depuis qu'il avait mis les pieds dans la Maison Blanche en fin d'après-midi, le curé avait passé son temps à questionner tous les résidents sur leur occupation chrétienne pour s'assurer que tous consacraient assez de temps au Seigneur. Quand Philomène s'était mise à s'amuser avec Béatrice dans le salon, peu emballée par ses discussions de grands, Jacqueline l'avait observée sévèrement, avant de l'interroger à son tour sur la place qu'occupait la religion dans sa vie scolaire. « Tu n'as pas encore fait ta première communion, je pense, » s'informa le curé.
« Non, mais c'est parce que le curé est parti, j'ai pas eu le temps, » rétorqua la fillette.
Horace, installé dans la chaise berçante près de la porte de la cuisine d'été, s'intéressait vraiment à la discussion, alors que Tom espérait avidement l'arrivée de Clémence pour changer de sujet. Jacqueline allait poursuivre lorsque la dernière invitée cogna enfin à la porte avant de l'ouvrir.
« Me voici, »
annonça Clémence d'un ton posé qui ne lui ressemblait guère. Elle avança dans la cuisine et embrassa sa sœur Simone, qui avait la tête penchée sur la crème qu'elle fouettait depuis plusieurs minutes. Dans sa robe marine ceinturée de rouge, Clémence détonnait un peu parmi les autres membres de la famille. Tom et sa femme avaient enfilé des tenues propres, mais sans plus. Une chemise écrue, un pantalon de toile foncé pour le grand blond, et une robe grise sur laquelle elle avait noué son tablier blanc pour son épouse. Pour la première fois depuis la mort de son fils, Simone avait tressé ses cheveux en une minuscule natte sur sa nuque. Elle fit un clin d'œil à Clémence et souffla « Enfin, tu arrives. Notre frère devrait cesser ses grandes envolées. Dommage que mon oncle Jean-Julien soit trop occupé pour se joindre à nous. Il dit que ses cartes postales prennent tout son temps », répliqua Clémence en haussant les épaules.
« Ouais, je sais. On l'a presque pas vu de l'été, je te mens pas. »
Clémence esquissa un léger sourire avant de s'avancer vers Jacqueline, qui s'était levée pour l'accueillir. Il prit les mains tendues de sa cadette et accepta la joue qu'elle lui tendait. Pendant quelques secondes, il ne dit pas un mot, se contentant de fixer sévèrement la jeune femme.
« Alors, si j'ai bien compris, tu as enfin mis fin à cette folie ?»
s'informa-t-il avec condescendance. Découragée du manque de tact de son aînée, Simone grimaça et déposa son fouet sur le comptoir.
« On mange! Venez donc vous asseoir! » clama-t-elle pour détourner l'attention.
Figée par le ton sec de son frère, Clémence pâlit et hésita sur la réponse à lui servir. Elle ferma les yeux en inspirant profondément pour se calmer. Horace se leva en poussant sur la chaise, et au moment où il allait se diriger vers la cuisine, le sexagénaire mit sa main sur sa poitrine en émettant une légère plainte.
« Oui, papa?
Grand-papa? » Avant que quiconque ne puisse réagir, Horace s'effondra sur le sol sans dire un autre mot. Abasourdi par la rapidité de la chute, son fils et sa bru restèrent figés pendant quelques secondes, et c'est Jacqueline qui s'agenouilla près de l'homme blanc comme la mort.
« Monsieur Laviolette, Monsieur Laviolette! »
« Papa, oh, Sainte Bénette, papa, fais-moi pas ça. Pas toi aussi, je t'en supplie. »
Un sanglot dans la voix, Tom s'élança vers son père pour lui soulever la tête. Il ne regarda pas son beau-frère qui n'avait pas apprécié le juron, mais qui conserva tout de même ses reproches pour lui-même. Le poing d'Horace était encore crispé sur sa poitrine, et Simone fut la première à commander.
« Philomène, va chercher l'infirmière, vite !»
La petite enfila ses chaussures et partit en courant, le visage empreint d'inquiétude. Elle parcourut le demi-mille jusqu'à la maison de Jézabel Contant sans prendre le temps de s'arrêter. Quand elle grimpa les marches pour frapper, Philomène n'avait qu'une idée en tête.
« Vite, madame, il faut venir sauver mon grand-papa »
cria-t-elle à l'infirmière qui ouvrit grand les yeux devant cet enfant à bout de souffle dont le visage était couvert de larmes. Ce souper qui devait changer les idées de Clémence et lui permettre de se retrouver près de sa famille fut bouleversé par le malaise d'Horace Laviolette. Quand l'infirmière arriva dans la maison en compagnie d'une Philomène paniquée, l'homme avait repris connaissance.
La fillette laissa passer un peu d'air entre ses lèvres pincées avant de courir poser sa tête contre le torse de son grand-père.
« Oh, tu as revécu, grand-papa, tu as revécu, merci, merci !»
Simone la prit doucement par le bras pour permettre à Gisabelle Contant de sculpter l'homme qui ronchonnait.
« Puisque je vous dis à tous que c'est rien, je me suis levée trop vite, c'est tout. Essayez pas de vous débarrasser de moi, je vais être encore ici pour un bon bout de temps.
« Toi, ma philo, sèche tes larmes. Ton grand-père n'a pas fini de t'en faire voir de toutes les couleurs. » Le sourire éclatant de la fillette fit baisser d'un cran l'anxiété dans la maison. Après quelques instants passés auprès du patient, la femme de grande taille se releva et se tourna vers les autres membres de la famille.
« Monsieur Laviolette a peut-être fait une crise d'angine ou une chute de pression. Il faudrait l'amener à l'hôpital dans les prochains jours ou à tout le moins faire venir le docteur Lemire pour confirmer mon diagnostic. »
Horace secoua la tête en relevant les épaules. Il posa son regard sérieux sur l'infirmière et proféra
« Moi, madame, je vous fais en masse confiance. On n'a pas besoin de déranger d'autres mondes. Là, je vais me reposer un peu pendant que vous commenciez votre souper. Faites-toi-en pas, ma philo. » Je vais pas te laisser manger tout le dessert de ta mère. Garde ma place au chaud. Puis vous, mademoiselle l'infirmière, si vous voulez vous joindre à nous pour manger, ben gênez-vous pas.
La femme refusa gentiment l'offre, puisqu'elle ne connaissait pas vraiment cette famille, qui faisait appel à ses services pour la première fois. Elle sourit à Philomène, la félicita pour son courage, et glissa dans sa poche les $2 que coûtait sa visite. Au revoir à tous et Monsieur Laviolette, n'oubliez pas de consulter le docteur si le malaise persiste. Quand la porte se referma sur l'infirmière, Philomène était tellement soulagée du dénouement et de la bonne humeur qu'affichait son grand-père qu'elle lança sans réfléchir « Je pense que c'est Éloi qui a pris soin de vous, grand-papa. » Les regards de Tom et Simone se croisèrent et restèrent fixés l'un à l'autre pendant un long moment, alors que le silence s'installa entre les convives. Même Jacqueline eut la décence de baisser la tête sur ses mains croisées sur ses jambes sans dire un mot. Tom aida son père à s'étendre sur le divan du salon, l'infirmière ayant jugé plus prudent de l'empêcher de se déplacer durant quelques heures. Le sexagénaire avait eu peur, même s'il tentait de le cacher, mais il préférait écouter sagement les consignes de Gisabelle Contant, qui lui avaient semblé bien adéquates. Puis Tom, peu enclin à penser à la mort éventuelle de son paternel, lança d'une voix faussement enjouée « On la mange, cette bouillabaisse, oui ou non? » Jacqueline acquiesça avec bonne humeur et gourmandise. Enfin, il pouvait passer à table. Il jeta un dernier regard au vieil homme et fut soulagé de constater qu'il avait repris des couleurs. À présent, il pouvait se remplir la panse tout en s'occupant des amours de sa sœur cadette. Dès que Clément s'installa en face de lui, le curé posa son regard bleu sur elle.
« Tu as donc laissé cet homme ?»
répéta-t-il.
« C'est une excellente décision de ta part, je t'en félicite. »
La jeune femme, qui s'attendait à ce que Jacqueline reprenne le fil de la conversation, avait préparé sa réplique. Depuis plusieurs jours, elle lisait la Bible fréquemment pour trouver un sens à sa tristesse. Elle posa ses mains de chaque côté de ses cuisses et souleva son torse pour répondre sèchement «
C'est Sylvestre qui m'a laissé Jacqueline, parce que moi je l'aurais marié cet homme-là, comme tu dis.
Marié, pff! Je suis bien heureux que cette idiotie soit enfin terminée. Notre Seigneur peut pardonner beaucoup de péchés, heureusement. »
Simone se tenait le dos tourné vers l'imposant poêle, et elle retint une réplique acerbe. Elle voulait éviter d'exacerber les tensions, mais priait pour que son frère se taise enfin. La gourmandise de Jacqueline prit dessus et il avala une grosse bouchée de bouillabaisse en savourant le morceau de homard qui en faisait partie. Les pêcheurs avaient rarement l'opportunité de manger ce crustacé destiné au marché canadien. Mais le jour d'avant, Tom avait trouvé un gros spécimen dans son filet qu'il était allé lever à l'aube et l'avait ramené chez lui. Clémence pigeait dans son bol, l'appétit coupé par la présence de Jacqueline, ses questionnements et ses commentaires déplacés. Depuis son arrivée au village, 3 jours plus tôt, elle passait son temps au bord de l'eau à lire et à réfléchir à sa vie. La mère avait cette capacité de calmer les esprits et d'aider à prendre des décisions. Clémence choisit donc ce moment pour expliquer qu'elle avait choisi de devancer son retour à Rimouski pour le lundi matin. Simone arrêta de manger avec surprise.
« Ah bon? Je croyais que tu restais une semaine. »
Je veux prendre le temps de me rendre à Québec pour retrouver Sylvestre, lança-t-elle avec aplomb. La tape que donna aussitôt le curé sur la table de bois fit sursauter les convives, et Béatrice, qui se tenait loin de cet homme vêtu de noir, fit la moue en descendant de sa chaise pour aller se cacher derrière sa mère.
« Pas question !» cracha Jacquelin. « Je ne laisserai pas ma sœur courir ainsi après un homme. »«
Pardon ?» s'exclama Clémence qui ouvrit la bouche de surprise devant la virulence du ton de son frère. Fermant les yeux pour se donner le courage, elle puisa dans ses lectures des derniers jours pour réciter avec ferveur. « Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne profitez pas de lui. Au contraire, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple. Vous devez l'aimer comme vous-même. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. » Estomaqués par autant d'audace, Simone et Tom baissèrent la tête pour éviter que Jacquelin ne remarque leur léger sourire. L'aîné respirait si fort que Philomène voulut s'enquérir de sa santé, mais la fureur qu'elle lut sur les traits de Jacquelin l'en dissuada. Clémence tremblait de la tête aux pieds, étonnée elle-même de pouvoir affronter ce frère qu'elle connaissait bien peu. Mais plus l'homme semblait furieux, plus elle était convaincue du bien fondé de sa décision. Le curé se leva en repoussant lentement sa chaise. Puis il avança son imposante silhouette jusqu'à sa jeune sœur, qui leva la tête et planta son regard dans le sien. « Tu vas revenir t'installer au village de Lens-à-la-Joie, Clémence, c'est un ordre !» clama Jacquelin froidement. « Un ordre ?» répéta la femme en posant son regard abasourdi sur Simone. Cette dernière voulut calmer les choses. Elle voyait bien qu'Horace du salon s'était relevé à demi sur le sofa et qu'il semblait déterminé à se mêler de la conversation. Avant qu'il ne se lève, Simone plaça une main sur le bras tendu de son frère et avisa « Calme-toi. Calmons-nous tous, je vous en prie. Vous faites peur aux petits. » Jacquelin avait le visage fermé comme jamais. Ses joues se contractaient et une veine palpitait à la lisière de son col romain. Inspirant profondément, il poursuivit d'une voix rauque. « Si tu fréquentes de nouveau cet homme, ne viens jamais me demander de l'aide après, Clémence. Ma porte te sera fermée pour toujours. » Bouleversée de la tournure de son souper, Simone laissa échapper un petit son de détresse. Tom ne pouvait laisser la situation déraper ainsi. Aussi, il se leva à son tour pour se placer derrière son épouse. « Je pense qu'on ferait mieux de changer de sujet. » « C'est vrai !» approuva Horace, qui était à présent assis sur le bout du divan, les mains sur ses genoux. Lui qui était si croyant ne savait pas de quel côté pencher. Il approuvait les paroles du curé et, comme lui, considérait que la place d'une femme blanche n'était pas auprès d'un homme de couleur. Mais il voyait bien que la jeune Clémence était encore plus braquée qu'au début de la conversation. Il sentait la peine qui étreignait sa bru et considérait que son rôle de patriarche était de calmer les tensions. Il se leva lentement pour s'assurer que ses jambes étaient assez solides et marcha vers la table de la cuisine. Les deux fillettes étaient silencieuses et Philomène, la tête penchée, priait en silence.
« Je commence à avoir faim, moi. Je vais me joindre à vous finalement. »
tenta Horace dans l'espoir de changer l'atmosphère. Mais à son grand désarroi, Clémence déposa sa serviette de table à côté de son bol encore plein de bouillabaisse et recula sa chaise. Elle n'avait jamais eu l'air aussi déterminée. « Savez-vous, monsieur Laviolette, vous pouvez prendre ma place. Je pense que je vais retourner chez mon oncle. J'ai perdu l'appétit et j'ai une valise à faire pour pouvoir partir après-demain. Clémence !» Simone s'approcha de sa sœur en tordant son tablier entre ses mains sans même s'en rendre compte. Elle suivit sa cadette qui s'était dirigée vers l'annexe de la maison. Pendant quelques minutes, les sœurs discutèrent à voix basse, mais c'est la mine piteuse que la plus âgée revint vers la cuisine.
« Tu lui as fait entendre raison, j'espère ?» s'informa sévèrement Jacquelin, qui avait recommencé à manger sans se préoccuper de la consternation qui se lisait sur les visages des autres convives. Sa sœur mordit sa lèvre, et après un petit coup d'œil à Tom, elle secoua doucement la tête de gauche à droite.
Elle va partir lundi.
Clémence était tellement enragée qu'elle décida de descendre sur la plage pour retrouver ses esprits. La colère avait pris le dessus sur la peine qu'elle ressentait depuis qu'elle avait appris le départ de Sylvestre. « Je vais lui en faire, moi, un ordre. Je sais bien que c'est le curé du village, mais il me semble qu'il devrait être plus compréhensif que ça. » Elle martelait le sol de ses chaussures de cuir sans égard pour la poussière qu'elle soulevait. Quand la jeune femme arriva devant la grave, où les vignaux étaient encore surchargés de morue verte, elle ferma les yeux pour humer l'air salin. Elle grimaça en entendant des hommes parler et se demanda si elle devait faire demi-tour. Des pêcheurs, pipes et cigarettes à la bouche, terminaient leurs tâches quotidiennes, même si la nuit était tombée depuis une heure. Plusieurs profitaient des belles journées d'automne pour augmenter leurs revenus. Clémence passa près des hommes sans s'arrêter. Elle marcha jusqu'au bout du quai et s'y assit. Émile, qui venait de terminer son ouvrage, l'aperçut et hésita un moment. Mais il avait bien aimé discuter avec la jeune sœur de Madeleine l'année précédente, lors de sa visite estivale, et il décida d'aller la saluer. « Clémence? » « Bonsoir. » Déçue d'être dérangée dans sa réflexion, la femme retint un soupir d'exaspération avant de tourner la tête. Malgré la pénombre, elle devina qu'il s'agissait de l'engagé de son beau-frère et lui rendit son salut. Les bras croisés, reculant un peu pour éviter que l'odeur qui s'agrippait à ses vêtements sales ne dérange Clémence, Émile la questionna gentiment. « T'es revenu passer quelques jours au village? Tu t'ennuyais trop? Disons ça ainsi, si tu veux. Mais je repars après-demain. » « Ah! Dommage. » Rougissant, Émile fut bien heureux que la nuit soit tombée. Même s'il savait que Clémence avait un prétendant, il n'était pas insensible à son charme. Quand il l'avait invitée au Bleuet lors de sa dernière visite, Émile avait compris qu'elle ne voulait pas le fréquenter. Ce jour-là, le pauvre avait pris son courage à deux mains et il avait reçu une réponse sans équivoque. Il respecta donc une certaine distance entre eux pour éviter de l'ennuyer avec sa présence. « Toi, » interrogea Clémence avec gentillesse, « tu retournes bientôt à Gaspé? » « À la fin du mois d'octobre. » « Et tu vas travailler à la scierie? » « Probablement. J'ai pas encore décidé. » C'est certain que je veux ramasser le plus d'argent possible pour acheter mes agrès. L'année prochaine, je me trouve une barge, ici ou ailleurs, mais je passerai pas un autre été sur terre. Moi, je veux devenir pêcheur. » Étonnée par le ton exalté d'Émile, la femme se retourna sur elle-même, tout en restant assise, et elle commença à discuter de son avenir, en oubliant peu à peu la rage qui l'animait. Au bout d'un moment, le jeune homme lui dit à regret, « Bon, je vais te laisser tranquille. Tu me déranges pas. Au contraire, tu m'as permis de me calmer. » « Ah bon? » Et sans même y penser à deux fois, Clémence narra à Émile le souper qu'elle avait quitté à cause des propos de son frère aîné. Déçue de constater qu'il n'avait pas plus de chance qu'auparavant auprès d'elle, même si Sylvestre n'était plus dans sa vie, Émile la laissa s'épancher, en songeant qu'il aurait bien aimé qu'elle soit aussi enflammée envers lui. Finalement, Clémence lui tendit la main et dit « Tiens, aide-moi à me relever, je vais remonter au village, moi aussi. » Émile se pencha et saisit les doigts tendus. Lorsqu'ils se touchèrent, quand sa main délicate disparut dans la grosse paluche du costaud, Clémence sentit un courant passer dans tout son être. Elle, qui n'avait jamais été attirée par le jeune blond, recula d'un pas pour s'assurer qu'il ne réalise pas son émotion. « Voyons donc, c'est Sylvestre qui doit me faire cet effet-là, personne d'autre? » songea-t-elle. Elle suivit Émile en fixant son corps, si différent de celui beaucoup plus élancé de l'homme qu'elle avait fréquenté durant quelques mois. Clémence plissa le front avec incertitude. Elle se sentit tout à coup bien vulnérable. Comment pouvait-elle ressentir la moindre attirance pour un autre homme que Sylvestre?